des luttes contre les entreprises privées dans ce pays, où j'avais atterri un peu par hasard, hein, j'ai aucun mérite là-dessus, c'est vraiment le hasard, quand ça commence à rebouillonner en 98, et il se trouve qu'en 2000, je suis tombé, encore par hasard, dans la gare de l'eau, à Cochabamba, dont certains ont peut-être entendu parler, je sais pas, non, il faut que je précise, la gare de l'eau, qui est devenue maintenant une sorte de tarte à la crème de la critique, mais qui à l'époque avait une véritable nouveauté, sauf que du coup, ce qui se passait, c'est qu'en 2000, à partir de 2000-2001, bon, une nuée de sociologues et d'experts en tout genre se sont abattus sur Cochabamba, où il était devenu impossible de travailler, et donc je me suis replié à 4000 mètres à La Paz, pour, où il y a eu d'autres problèmes par la suite concernant l'accès à l'eau. Voilà, donc ça c'est un peu la chose. Je précise que le pessimisme dont je fais preuve et dont je ferai preuve sans doute ce soir par rapport à la Bolivie est évidemment un pessimisme, j'allais dire, méthodologique, au sens où je connais de très bien depuis les années 90 beaucoup de gens qui sont alors à l'actuel à la tête du processus politique. Et donc c'est un peu une nécessité pour moi de tordre le bâton dans l'autre sens pour ne pas que mes sympathies, on va dire, politiques influe sur le peu d'analyse que j'essaie de faire de cette situation-là. Voilà, donc c'était la chose que je voulais dire. La personne auquel je fais référence étant en particulier le vice-président bolivien, qui s'appelle Alvaro Garcia Linera, auquel Slavoj Žižek fait référence dans son dernier livre. Je sais pas si c'est le dernier en fait, mais il en produit beaucoup, mais aux frontières du réel, je ne sais pas comment ça s'appelle, où il dit que Alvaro Garcia Linera lit beaucoup ce qu'il fait lui et ce que fait Badiou, ce qui est vrai, hein, mais là je pense que la lecture de Garcia Linera, sa lecture de Hegel en particulier, donc Garcia Linera est quelqu'un qui est parti de base très très, j'allais dire, négriste sur la multitude dans le processus de changement social dans les années 2000, et une fois arrivé au pouvoir, s'est remis à lire Hegel, mais pas du tout le Hegel mouvementiste de Žižek, hein, le Hegel façon théorie de l'État, voilà, le vrai Hegel, on va dire, entre guillemets, pour ceux qui ont fait la philo académique, entre guillemets. Et voilà, c'est un peu, finalement, ça résume un peu les problèmes d'interprétation de la situation bolivienne. Ça pourrait être Hegel et la Bolivie, en fait. Voilà. Enfin, je parlerai pas plus de Hegel, hein, je suis plus assez Hegel. Alors, le problème, voilà, étant là, ça c'est peut-être la deuxième thèse pour aller vite, hein, le fait que du coup, il y a un problème pour penser ces choses-là. Effectivement, la Bolivie, c'est une situation qui était fabuleuse, mouvement social. Il y a une première entreprise qui se fait virer, Bechtel, en plus, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est celui qui reconstruit l'Irak l'année d'après. Ensuite, il y a la guerre du gaz en 2003, qui est un autre événement extrêmement important, qui, sous prétexte du vente du gaz au Chili, provoque une situation insurrectionnelle pendant plusieurs jours autour de La Paz et l'Alto, qui ravive tous les mythes de l'encerclement de La Paz par les Indiens, hein, au XVIIIe siècle, Tupac Amaru, Tupac Katari, voilà tout ça, et donc qui provoque le départ du président libéral, Gonzalo Sánchez Lozada, qui est celui qui avait introduit dans les années 85 les premières mesures de libéralisation avec Jeffrey Sachs, qu'il était allé chercher avant que Jeffrey Sachs ne ruine l'Europe de l'Est. Il avait déjà commencé à ruiner la Bolivie, et ça s'est fait en plusieurs vagues, parce que Sánchez Lozada est devenu ensuite président entre 93 et 97, et il a privatisé tous les secteurs possibles et imaginables, en particulier l'eau, hein, mais les hydrocarbures aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu cette interview dans Le Monde du patron de Total, du patron français de Total, il y a 2 ans, un truc comme ça, où il disait finalement, Evo Morales nationalise, et en fait non, il nationalise, il revient à des taxations normales, hein, les entreprises privées, il faut savoir, étaient taxées à 12%. Evo Morales a rapporté ça à 50%, ce qui est à peu près le taux dans tous les pays privatisés. Hein, la Bolivie est même allée plus loin que le Chili en matière de privatisation, puisqu'ils ont tout vendu, y compris le sous-sol, le sol. Voilà. Voilà. Une des raisons, c'est juste un aparté encore, une des raisons de l'explosion à Cochabamba étant que dans le contrat prévu, les agriculteurs, qui étaient vraiment le secteur organisé, je vais y revenir tout de suite, dans le mouvement social bolivien, n'avaient même plus le droit de récolter l'eau de pluie. Oui, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là-dessus. C'est une sorte d'erreur stratégique qui est tellement bête que voilà, on se demande comment ils ont pu la faire. Il faut dire que les Anglais n'ont pas le savoir-faire des Français en matière de spoliation collective. Comment analyser tout ça? Alors, les schémas d'analyse bon courant, c'était finalement le retour de la Bolivie plébéienne. Alors, pour le coup, avec une lecture en termes de seulement de multitude, pour le coup. mais qui ne cadrait pas tout à fait avec la réalité sociale et politique bolivienne, hein, qui est un pays finalement très très structuré, et c'est la thèse 3 que j'essaie d'expliquer ici, un pays extrêmement structuré par une des traditions syndicales, politiques très très fortes, bon, syndicalisme minier, délocalisation de ces syndicalistes qui ont formé le syndicalisme cocalero par la suite, hein, mais avec aussi plusieurs traumatismes historiques, des guerres perdues, hein, à répétition, depuis la perte du Pacifique jusqu'à la perte des terres vers le Chaco contre le Paraguay, etc. Hein, donc, un ensemble de traumatismes générationnels qui ont marqué des classes politiques, des militants syndicaux, bon, je ne peux pas trop approfondir là-dessus, et quand même ce syndicalisme ouvrier très 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 fort, très structuré, et qui a disséminé un peu dans tout le pays. Hein, donc finalement, en particulier Cochabamba, alors que tout le monde s'extasiait sur l'insurrection pure qui avait lieu, non, Cochabamba, c'était pas pour rien. Hein, c'est le pays où avait eu lieu la révolution nationale de 1952, qui avait produit une première nationalisation, qui avait porté au pouvoir une coalition syndicale et politique, hein, le mouvement national révolutionnaire, qui s'était tout de suite transformé, enfin très rapidement, en moins de 10 ans, transformé en une sorte de bureaucratie très très droitière, hein, au bout du compte, et qui avait été renversée par la dictature très très rapidement aussi. Mais pas du tout la même configuration que le Chili, par exemple, à ce niveau-là. C'était aussi, Cochabamba, l'endroit en matière d'eau, la concession recouvrait les zones rurales autour de la ville. Hein. C'était les villes en Bolivie, mais dans l'ensemble de l'Amérique latine, ont des frontières très très poreuses avec le monde rural environnant. C'est les communautés andines, contrairement à ce qu'on croit, bien souvent, c'est pas des territoires fermés, c'est des territoires de la mobilité, hein, qui sont pleins d'échanges économiques. C'est pas du tout le don pur. Au contraire, c'est des économies très très mercantiles, très mobiles, très fluides. Organisés en étages écologiques, des échanges perpétuels, et donc très structuré par métier, tout ça. Donc si on n'a pas tous ces éléments en tête, on ne peut pas voir la force qu'a eu le mouvement social bolivien, hein, cet héritage à la fois de syndicalisme ouvrier, de structures communautaires ensuite qui sont créées en interaction avec ces traditions syndicales, et pour le bien et pour le pire, puisque par exemple ces structures communautaires ont pu devenir le premier appui des dictatures militaires dans les années 60, hein, le pacte militaire paysan par exemple. Bon, là j'entre dans les détails de l'histoire, mais bon, c'est compliqué de parler de la Bolivie sans faire référence à tout ça et de tout ce que ça brouille de nos catégories de perception normale, hein, ce que ne pige pas par exemple Che Guevara quand il va en Bolivie, ou à l'époque le monde rural dominé, tout ce qu'on veut, opprimé, mais est fondamentalement réactionnaire, conservateur. Voilà, il ne peut pas l'appuyer par définition. Entre autres explications, il y en a beaucoup de son échec. Voilà. Alors, du coup, ça complexifie tout de suite un peu l'analyse sur qu'est-ce qui se passe en Bolivie. Et là-dessus, pour introduire à côté de l'insurrection des multitudes, ben, leur organisation, leur agencement, qui est justement pas du tout pensé dans la littérature actuelle. Hein. Alors en Bolivie, en plus, on pense ça seulement sur un retour de l'indianisme. Hein, ça, c'est un thème sur lequel je reviendrai peut-être plus tard. Mais enfin, d'ici, on voit beaucoup plus l'aspect mouvementiste sans voir l'aspect politique. Et l'aspect politique, au-delà de tout ça, bah, qu'est-ce qui a récolté les bénéfices de ces mouvements et de ces organisations syndicales structurées qui ont appuyé les mouvements? C'est le MAS d'Evo Morales. Hein, Evo Morales qui n'était pas là en 2000 lors de la guerre de l'eau. Hein, il était de Cochabamba, mais c'est pas lui qui a amené la guerre de l'eau, c'est d'autres syndicalistes qui l'ont appuyé et qui l'a largement sacrifié par la suite. Il n'était pas là en octobre 2003 lors de la guerre du gaz. Voilà. Il n'était pas là à El Alto non plus en 2005 quand il y a eu ce qu'on appelle la seconde guerre de l'eau, quand on a commencé à augmenter la pression sur l'entreprise française d'eau, la Lyonnaise des Eaux, pour la faire partir de La Paz, hein, qui est un processus qui a commencé en 2004-2005. Voilà. Mais le MAS a pu récolter les bénéfices de tout ça, les bénéfices électoraux. Hein, c'est un processus, enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette réussite électorale du MAS, qui a particulièrement créé en 98. Hein, Morales, il a une longue histoire politique depuis les années 80. Il commence comme dirigeant syndical, parce qu'il était d'abord dirigeant de l'équipe de foot, du truc, hein, mais c'est à peine une blague, hein, mais c'est vrai. Et il devient responsable Cocalero petit à petit. Il y a une histoire très trouble de la gauche bolivienne, très compliquée, qui est vraiment très très difficile à cerner, mais qui aboutit à la création du MAS comme solution, on va dire, de compromis après moult séparation en 98 seulement. Evo Morales se présente pour la première fois, enfin devient député très rapidement, et tout de suite ostracisé, Il est un peu vu comme le député indien, ce qui en plus est faux, puisque la Bolivie vivait depuis 1994 un régime un peu libéral indianiste, puisque le président Gonzalo Sanchez Lozada avait été élu avec un vice-président qui était un vice-président qatariste, hein, qatarisme, enfin, le mouvement indianiste, qui s'appelait Victor Hugo Cardenas. Voilà. Et donc, qui avait promu tout un ensemble de réformes, de décentralisation, pour favoriser les communautés. Donc, comme quoi, et ça j'y reviendrai par la suite, comme quoi le libéralisme est tout à fait soluble dans l'indianisme et vice versa, et au contraire. Evo Morales donc devient un député qui se fait, on va dire, éjecter du Parlement assez rapidement par le soutien qu'il apportait aux Cocaleros. Il faut voir qu'aussi dans les années 2000, au tournant des années 2000, pardon, c'était des morts régulières. Hein. On n'en fait pas beaucoup parler, mais les militaires, quand ils débarquaient dans le Chaparré pour affronter les blocages, il n'y avait pas de détails à l'époque. Hein, voilà. Et Evo Morales, qui échappé plusieurs fois à des tentatives d'assassinat, se fait en plus éjecter du Parlement, ce qui lui donne sa force nationale et une visibilité que n'avaient pas les autres, notamment le MIP de Felipe Quispe, hein, le mouvement indien Pachacuti, qui était plus puissant au début des années 2000, qui prenait le retour vraiment à la nation Aymara, mais qui, justement par cet indianisme exclusif ici, n'a pas pu récolter certains bénéfices électoraux que Morales a pu faire, parce que son MAS est quelque chose de très précis, de très particulier, pardon. C'est une coalition d'organisations sociales et de mouvements sociaux. C'est ce que j'essaie de dire dans les thèses 3 et 4, rapidement. Il y a une sorte d'alchimie politique assez spéciale qui fait que Morales a réussi à récolter non seulement le fruit de ces mouvements sociaux, mais de ces alliances, de ces conflits, y compris entre organisations, et a réussi depuis une dizaine d'années à les faire tenir, bon gré mal gré, ensemble, dans un même mouvement politique. Et qui tient parce qu'il y a une répétition de succès électoraux sans précédent. Je reprends mon fil ici. C'est quoi ? C'est en 2002, Evo Morales fait quasiment 20% aux élections. Son parti est très jeune. Alors ça explique aussi les difficultés du gouvernement de la Bolivie actuelle, puisque c'est un parti qui n'a pas eu le temps de former ses cadres politiques. Alors, 2002, Evo Morales fait 20%. On dit même, bon, s'il n'y a pas eu de trucage électoraux, qu'il aurait été quasi, peut-être même en tête. Hein. Sauf qu'après, c'était un régime à l'époque, c'est le Parlement qui ensuite élisait le président. Stigmatisé en plus, alors là c'est le nationalisme des Boliviens, stigmatisé par l'ambassade des États-Unis qui dit si vous votez pour ce type-là, nous allons arrêter de vous donner des crédits, etc. Donc voilà, ça a contribué à construire son image de principal opposant au régime. Et il arrive la guerre du gaz en 2003, un référendum où Evo préconise les bonnes réponses, j'allais dire, hein, sur la nationalisation du gaz, qui n'est pas une vraie nationalisation, et c'est la solution qui est choisie par tout le monde. Et il arrive élu au premier tour en 2005, hein, pour faire l'histoire de la Bolivie très très rapidement, élu au premier tour avec 53,4% des voix, et donc doit gérer tout de suite le gouvernement de tout ça. Hein, donc une histoire intéressante pour nos problématiques, quelque part, effectivement, puisque ça part de mouvements sociaux qui sont partis sur les ressources naturelles, hein, sur les communs, on va dire, pour aller vite, même si on pourrait discuter, est-ce que c'est bien public, bien collectif, bien commun, voilà, et qui arrivent à un processus de transformation politique, avec Evo Morales qui est tout de suite qualifié du premier président indien, hein, du pays, voire d'Amérique latine. L'indianisme n'étant dans le MAS que quelque chose de très tardif. Hein, Morales s'est construit avant tout jusqu'en 2003-2004, simplement sur les thématiques, on va dire, anticapitalistes, classiques. Hein, plus le discours cocaliero avec un peu le discours sur la coca, la feuille de coca, héritage culturel ancestral, mais finalement pas très politisé comme héritage. Hein. C'était à peine un ressort utilisé. Et au moment d'arriver au pouvoir, ce tournant indianiste, avec, vous avez dû voir les images partout, la première intronisation, je ne sais pas comment on dit, intronisation, oui, des Vomolins à Tiwanaku, hein, le site pré-Inca, où il se fait remettre les bâtons du pouvoir par les autorités Aymara en particulier. Voilà, les Aymara qui sont une des ethnies du pays, on dit qu'il y en a 36, en fait il y en a beaucoup moins, mais c'est la deuxième ethnie après les Quechua et un peu avant les Guarani. Mais c'est ceux qui sont sur l'altiplano vers le lac Titicaca, donc très proche de La Paz, ce qui explique aussi la tonalité très très indianiste du gouvernement qui est un peu imprégné de toutes ces forces sociales qui sont présentes dans la capitale, hein, La Paz. Donc un processus voilà, vraiment politique qu'il faut analyser en tant que tel, hein, avec cette ambiguïté du MAS qui est taxée de gouvernement des mouvements sociaux et qui en fait va finalement reproduire, et ça a été un des éléments de ma déception personnelle depuis 2006, alors même qu'il était élu en opposition au monde politique traditionnel, hein, et Vos, il n'est pas de cela, hein, il s'est même fait virer du Parlement, etc., etc. Le MAS en tant que parti, pour fonctionner, et pour arriver au pouvoir d'abord, ensuite fonctionner, avec ses alliances un peu contre nature, qui vont éjecter certains vieux militants, hein, je pense à Oscar Oliveira qui avait mené la guerre de l'eau, hein, à Cochabamba, qui vont éjecter des militants, plutôt mouvementistes du reste, au profit des vieilles figures politiques locales qui vont se réintroduire avec des plans de reconversion du dernier moment, voilà. Mais le MAS se met à reproduire tout l'ensemble de pratiques politiques traditionnelles, hein, quand on parle du commun au niveau des pratiques politiques et de création de nouvelles pratiques. Mais non, le MAS, il fonctionne comme les partis d'avant, j'allais dire, au-delà des déclarations d'intention. D'autant plus que la politique bolivienne, de droite ou de gauche, est une politique clientéliste. Il faut prendre ça à un sens pas du tout moral, à un sens... dans le fonctionnement, enfin bon, on pourrait penser à la politique française à ce niveau-là, notamment au tournant du 19e siècle, mais un clientélisme qui tient au fait que ben, on est mobilisé à un niveau local, on va dans un parti, on n'a pas une péga, un poste, voilà, c'est des choses et ça fait partie du fonctionnement courant, voilà, commun, j'allais dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, enfin, j'ai encore un peu de temps, hein, parce que j'ai comme. Oh, c'est bon, ça, 10 minutes alors. Alors du coup. Tout ça, ça fait un petit, enfin, ça contribue à complexifier les choses dans l'analyse sur la vision, on va dire, un petit peu wengeiste que l'on a du gouvernement Morales. Hein. Ça y est, c'est les Indiens qui, après 500 ans de domination, alors Evo Morales, il en rajoute dans la chose. Hein. Il va au sommet sur la Terre, je sais pas où, à Copenhague, ensuite à Cancun, voilà. Il fait tout un truc, un discours sur les droits de la Pachamama, hein, la Terre Mère. Sur le respect de la nature, des beaux discours si on veut, qui ne sont absolument pas suivis dans les faits par les politiques industrielles du gouvernement Morales. Hein, alors, c'est aussi présenté comme la voie vers le socialisme du 21e siècle. Hein, c'est en ça que je suis d'accord avec Zizek quand il dit que la Bolivie est plus intéressante malgré tout que le Venezuela hein, dans ce qu'elle produit. Mais ce socialisme du 21e siècle, par exemple, je reparle des nationalisations. C'est pas des nationalisations, c'est des privatisations, enfin c'est des reprises de capital très très pragmatiques. Et je pense que Evo Morales, s'il avait vraiment voulu renationaliser, au-delà des militaires qui ont occupé les champs d'hydrocarbures, hein, de gaz, ça fait un petit moment qu'il ne serait plus au pouvoir. Hein, je vous ai sans doute dû remarquer que le coup d'État contre Correa, c'était le jour où il a décidé de plus exploiter les réserves de pétrole dans une réserve amazonienne, justement. Hein. Evo Morales s'est toujours bien gardé de ménager deux choses. Les militaires d'un côté, il a fait son service militaire, c'est important dans la culture nationaliste bolivienne, et d'autre part, les entreprises, et on peut dire par exemple que la gestion du départ de Suez et Inés des Eaux est un modèle du genre. Hein. Suez a été indemnisé largement lors de son départ en 2007, et finalement la gestion de la renationalisation s'est fait très très bien, et le patron de Total m'apparaissait tout à fait satisfait de la façon dont ça s'était passé. Ce qui n'était pas gagné du reste, hein, mais ça on retrouve à un autre niveau dans le pragmatisme économique de Morales, ce pragmatisme politique dont il a fait preuve pour aller au pouvoir. Hein, c'est une sorte d'animal politique, pas du tout au sens Rissot hein, là-dessus, mais d'animal politique qui sait très très bien naviguer à vue, qui réagit comme ça tout seul en n'écoutant pas grand monde, et qui arrive à s'en sortir toujours un peu de façon un peu miraculeuse. La dernière fois en date, et j'arrive à mon point suivant, c'était lors de ce fameux coup d'état civique. En 2008, lorsque les oppositions de droite ont creusé leur propre tombe en prenant d'assaut les institutions publiques dans toutes les régions hein, de Bolivie, sauf à La Paz évidemment, et à El Alto, et on fait une erreur terrible pour elles, qui est que elles ont perdu le seul argument qui leur permettait de résister face à Morales, qui était présenté comme le MAS, le parti hégémonique, totalitaire, hein, évidemment, toutes les choses qu'on entend toujours, hein, communisme, voilà, Chavez, Fidel Castro, avec lequel Evo s'affiche en plus beaucoup, et on est des défenseurs de la démocratie, de la légalité contre lui. Or, par exemple, vous faites un coup d'état civique, voilà, donc la droite, même régionale, la droite partisane était balayée depuis assez longtemps, mais la droite régionale a pris un coup dur, mais finalement, ça ne veut pas dire que les forces conservatrices se soit non plus éteinte. Et je pense qu'une des particularités de ce qu'on est en train de vivre en ce moment depuis 2008, c'est finalement le déplacement des conflits. Je parle beaucoup de conflits, mais la Bolivie, c'est un pays de conflits. Le déplacement des conflits d'une opposition, on va dire droite-gauche, pour aller très très vite, en 2002-2008, à une opposition interne au MAS maintenant. Hein, et le masque vit lui-même un processus très très contradictoire de tension entre des ailes, des franges de transformation sociale, d'élaboration d'une autre communauté politique, hein, de construire nos communs, et d'autres franges qui s'entendent très bien profiter du système actuel et continuer la politique par d'autres moyens, hein, dans ce gouvernement du masse. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème, me semble-t-il? C'est que du coup, on assiste à l'émergence à la fois d'une sorte d'aile modérée, y compris au sein du MAS, mais aux franges du MAS, dans les anciens alliés du MAS, une gauche urbaine, pour aller très très vite, qui prend du poil de la bête, hein, qui va, à mon avis, je me trompe peut-être, mais exploser électoralement d'ici peu. Et par ailleurs, une gauche indianiste, très puissante, y compris dans les syndicats. Il faut voir que beaucoup des leaders syndicaux sont passés par les ONG, donc ils ont baigné dans cette culture indianiste qui est vraiment une réimportation en Bolivie, hein, la forme dont on la connaît. Hein, c'est comme la Pachamama, les attributs de la Pachamama dont parlez vous, c'est la Vierge Marie, hein, c'est pas les divinités pré-incaïques. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes caractéristiques. C'est un mélange étonnant d'éléments catholiques et d'éléments précoloniaux, pour aller vite. Et c'est ce qui fait, du reste, l'intérêt des cultures andines, cette capacité d'absorber sans arrêt les éléments extérieurs. C'est là leur capacité de résistance, la capacité d'absorber les éléments extérieurs, de les retraduire, hein, dans des formes spécifiques, culturelles ou politiques. Et c'est pour ça que la gauche indianiste, ici, en réhabilitant un discours sur la communauté territorialisée, fixe, hein, les traditions des ancêtres, hein, c'est à peine si c'est pas les flûtes et les tambours, hein, grosso modo. Hein. C'est en à ce niveau-là, en Bolivie et dans les ONG qui financent. Hein, vous parlez Pachamama, un financeur norvégien, il sort le chéquier tout de suite. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ose pas parler de la coopération italienne, puisqu'il y a beaucoup d'Italiens ici, mais c'est à peu près pareil. Voilà. Et donc, Evo, il navigue un peu entre tout ça. Et ça renforce du coup, alors il y a une visibilité évidemment accrue au niveau national et international de cet indianisme, traditionnaliste, complètement réac au bout du compte. Hein. Il faut voir qu'il est très puissant, alors d'autant plus puissant qu'il a permis, qu'il a été très présent dans l'élaboration de la nouvelle constitution. Hein, c'est pas les militants syndicaux de base qui ont été dans la nouvelle constitution qui a été votée en 2009, hein, au terme d'un processus conflictuel. C'est évidemment les militants syndicaux qui sortaient des ONG, etc., qui se sont retrouvés ensuite dans les ministères. Ah, donc là-dessus, on a vraiment besoin d'une analyse sociologique de tous ces trajectoires, ces reconversions de trajectoires, et pour voir que, du coup, c'est des gens qui ont été élevés soit aux sources du marxisme cubain, soit de l'Église catholique, grosso modo. Ils se rejoignent dans le même indianisme maintenant. Ils ont troqué les mêmes attributs. J'ai même un ami intellectuel qui était un compagnon de route de Garcia Linera à l'époque, qui a coupé sa moustache pour faire un intellectuel aymara maintenant. C'est des anecdotes pour faire passer plus facilement les choses, mais voilà, ça illustre bien le fait que cet indianisme-là prend de plus en plus de place, y compris dans l'élaboration des politiques et dans la pensée, justement, de comment gérer les politiques publiques, et de façon très contre-productive, puisque ça conduit à rétablir finalement toutes les catégories les plus coloniales, hein, finalement. Hein, la vision de l'Indien, du bon Indien, dans son territoire, avec tous les débats sur la justice traditionnelle face à la justice officielle, voilà, est-ce qu'on a le droit de lyncher, les punitions qui sont octroyées aux gens qui sont dans l'illégalité, est-ce qu'un Indien aymara, ou qui se revendique de quelle communauté, on va le juger à la passe, ou dans sa communauté? Il y a eu ce cas-là avec un des désormais opposants d'Evo Morales, cet intellectuel justement qui s'est coupé les moustaches, qui s'appelle Félix Patsy, qui devait être candidature, je passe un peu par l'anecdote, mais bon, c'est un peu plus facile d'expliquer les choses comme ça, qui devait être candidat à la gouvernance, enfin, gouverneur, pardon, au poste de gouverneur du département de La Paz. Il se trouve que le jour d'avant, la nuit d'avant, on va dire, il devait être présenté sa candidature avec Evo Morales le lendemain à 10h, et il se fait choper en sortie d'un bar, ivre mort, au volant de sa voiture. Voilà. Et évidemment, impossible de candidater dans ces conditions-là. Et donc, il a enfourché, coup monté, on pourra dire, et effectivement, puisque voilà, il représentait une frange dans le MAS qui dérangeait récemment Evo. Et donc, l'enjeu ensuite, c'est de voir est-ce que il va être. On va lui retirer son permis, donc justice officielle. Ou bien est-ce qu'on va lui donner la punition de la communauté qui consiste à construire 1000 briques d'adobe. Les briques d'adobe, c'est du torchis, voilà. Et lui disait, ben non, vous voyez, on m'a fait la punition dans ma communauté, pourquoi est-ce que je viendrai ici à La Paz? C'est un intellectuel hein, de gauche tout à fait normal qui habite dans la zone sud de La Paz, qui a déclaré le plus gros patrimoine au moment en 2006 quand il est devenu ministre de l'éducation. Donc, oui, c'est, il a ce côté indianiste et il dit voilà, moi je suis d'une communauté, pourquoi est-ce qu'on va me punir dans La Paz et me retirer mon permis? Voilà, c'est, en gros, c'est la double peine, hein, disait-il. Et en même temps, tout le monde intellectuel s'est converti à ce genre de choses, y compris dans le ministère de l'eau, pour penser la gestion de la ressource. On pense dans ce genre, on pense en ces termes. Donc c'est un gros problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire des projets pour aider à creuser un puits dans telle ou telle communauté de l'altiplano. Genre, je ne sais pas si vous voyez le lien entre la justice communautaire et ce que je dis sur l'eau. Enfin, pour moi, il est évident, mais voilà, je vais peut-être un peu vite comme raccourci, mais voilà, je pourrais y revenir par la suite. Hein, mais ça participe du même mouvement de finalement d'aversion simple des catégories coloniales. Si voilà. Et la gauche indianiste ne fait que répéter les schémas finalement de l'exploitation la plus capitaliste possible, en seulement en transformant l'Indien sale à qui on va pas faire un réseau d'eau à El Alto, c'est le bon Indien maintenant, voilà, mais on va pas lui donner l'eau pour autant non plus, hein, puisque de toute façon il faut faire des projets pour lui apprendre à faire un puits, voilà. Alors du coup, c'est un peu l'échec au bout du compte dans mon diagnostic actuel. Je peux me tromper, j'espère même me tromper, finalement de cette transformation de la lutte pour les communs en un processus de création d'un commun au sens d'une communauté politique avec des pratiques un peu nouvelles, avec des mesures innovantes. J'ai parlé un moment des zéro carbure sur le pragmatisme économique, mais du coup avec toutes ces frontières mentales qui se mettent en place, hein, entre l'indianisme d'un côté et finalement une sorte de social-libéralisme modéré de l'autre, l'impossibilité à penser par exemple un modèle de développement original là-dessus. Le gouvernement actuel ne fait pas que relire Hegel, il revient aux vieilles solutions céphalistes. Hein, il y a un lien pour moi il y a un lien voilà entre Hegel et Céphale, le développementalisme d'État qui on industrialise, hein, c'est un pays, la Bolivie, qui n'a jamais eu de bourgeoisie industrielle pour plein de raisons, l'expropriation du capital, mais on en revient là, alors que justement ce qui me semble intéressant quand personnellement j'ai découvert la Bolivie au tournant des années 90, c'était ce foisonnement de structures locales, de communautés qui fonctionnait de façon très organisée et en même temps très très souple, et qui promettait d'autres lendemains, hein, l'invention d'autres types d'organisation économique, sans retomber dans les illusions coopérativistes, etc. Enfin, il y avait quelque chose qui était des fils qui étaient attirés et qui en ce moment sont en train de se refermer derrière des impératifs de gestion politique. Hein. Alors autant je suis convaincu que peut-on changer le monde sans prendre le pouvoir, c'est une bêtise. Autant, pour le coup, l'expérience bolivienne fait apprendre que changer le monde en prenant le pouvoir, c'est aussi quand même très compliqué. Et surtout quand on applique encore les mêmes vieilles recettes, et surtout quand on recycle les vieilles catégories coloniales perpétuellement. Voilà. Alors c'est peut-être un peu rapide ce que j'ai dit là-dessus, mais pour le coup, ça incite effectivement à changer de catégorie d'analyse. Par exemple, je termine sur le cas de l'eau. Malgré toute ma sympathie, y compris pour les processus de remunicipalisation, je dois admettre comme chercheur que la remunicipalisation à Cochabamba, hein, en 2000, c'est un échec terrible. Il n'y a pas plus de flotte dans les quartiers sud de Cochabamba qu'avant, que l'entreprise publique avant la privatisation, que l'entreprise privée qui n'a pas eu le temps de s'installer de toute façon, mais à cause de blocages entre les syndicats locaux, entre les hommes politiques locaux, etc. Et de la même manière, quelque part, la remunicipalisation de l'entreprise de La Paz, hein, la fameuse Aguas del Limani qui est devenue maintenant EPSAS, ne fonctionne bien que sur les acquis du privé, qui au moins a donné un transfert de technologie pendant 10 ans. Donc ça produit des choses un peu complexes à penser, qui ne feraient pas plaisir à nos camarades du CA d'attaque, je suppose, mais qui c'est pas du tout méchant hein, quand je dis ça, hein, mais qui bouleverse un peu nos façons de voir les choses, puisque de toute façon la nouvelle entreprise municipale ne peut pas plus obéir aux objectifs sociaux qui s'étaient fixés que ne pouvait l'entreprise privée qui de toute façon elle ne le voulait pas, voilà, que ce soit clair. Voilà, donc je suis désolé, c'était un peu décousu, du coup, parce que je savais pas trop comment expliquer ça. J'ai un peu, je suis un peu parti dans tous les sens, mais bon, s'il y a des questions, je suppose que je peux peut-être serrer les vis à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le lien avec l'exposé précédent. Enfin, voilà, je m'arrête. On dirait des bêtises.